Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans cet amphithéâtre Jacqueline Lichtenstein. Pardon de ce flottement ce matin, mais les lundis matins sont toujours un peu compliqués. Il est peut-être bon de commencer doucement. En tout cas, ça a permis de discuter avec les uns et les autres. Et vous dire simplement que, comme chaque année, puisque ça fait presque une quinzaine d'années que ce programme existe, nous sommes très, très heureux, en association étroite avec l'École du Louvre, d'ouvrir cette journée d'études, ce qu'exposer veut dire. Vous savez que c'est un rendez-vous que pour beaucoup, vous connaissez d'ailleurs déjà, qui permet de s'interroger sur ce mode d'expression particulier qu'est l'exposition, à travers des exemples très concrets, très liés à l'actualité de nos métiers, et qui permettent de faire surgir, à travers ces exemples concrets, des problématiques, chaque année différentes, organisées par demi-journée. Et cette année, la problématique qui émergeait était la question du rapport au public, du rapport au territoire à travers ces publics, et de la manière dont les institutions muséales, ou en tout cas les institutions qui présentent des expositions, pouvaient enrichir ce dialogue avec le public et aboutir à de nouveaux modes de médiation qui n'affadissent pas le message qui est celui des scientifiques qui sont l'armature des institutions, mais qui le rendent plus adapté, plus en phase avec la demande du public, avec ses attentes. Et donc c'est dans ce dialogue nourri que se situe l'élaboration des expositions qui ont été choisies, qu'il s'agisse d'ailleurs d'expositions permanentes ou temporaires. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette journée au sein de l'INP, mais aussi au sein de l'École du Louvre. Et je remercie la directrice de l'École du Louvre d'être avec moi pour ouvrir cette journée. Je voulais remercier aussi tous ceux qui, dans les institutions, appelés à participer à cette journée, ont fait l'effort de penser ce qu'ils avaient fait, de réfléchir a posteriori, ce qui est encore autre chose que la réflexion qui précède, de réfléchir a posteriori à l'expérience telle qu'elle avait été, telle qu'elle avait été reçue également, et de construire pour le profit de ceux qui assistent à cette journée cette réflexion. Je vous souhaite de très bons travaux aujourd'hui. Et vous le savez, ces travaux sont, et c'est pour ça que les élèves sont à la fois de l'Institut national du patrimoine et les étudiants de l'École du Louvre viennent suivre cette journée, je crois, parce que, et qu'elle rencontre beaucoup de succès à la fois sur place et à distance en ligne, c'est parce que justement on a besoin, et c'est un peu, je crois, le rôle de l'Institut national du patrimoine, mais aussi de l'École du Louvre, d'avoir une pensée appliquée dans nos métiers. Et je crois que le succès de ces journées est vraiment qu'elles sont centrées autour de cette question de l'application au médium de l'exposition. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, et encore une fois, vous souhaiter une très bonne journée.
Merci beaucoup, merci monsieur le directeur, cher Charles. Je voudrais vous partager un souvenir. Quand je suis entrée pour la première fois d'un point de vue professionnel dans les musées, c'était à l'aube de l'ouverture du musée d'Orsay. Comme ça, c'est simple, vous saurez à quelle génération j'appartiens. Et il y avait une double parole, donc en 1985, un an avant l'ouverture d'Orsay, qui m'avait beaucoup frappée. D'abord, une boutade qui venait des responsables patrimoniaux, des conservateurs qui avaient présidé à la formation donc de ce nouveau musée. La boutade, c'était vous verrez ma petite, le bonjour du musée, c'est le jour où il est fermé. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait frappée. C'est vrai qu'on avait une jouissance particulière à arpenter les salles du musée le jour de fermeture. C'était évidemment une provocation, provocation qui se voyait d'ailleurs tempérée par le fait que le musée d'Orsay a été le premier, le tout premier en France, bien avant le Louvre, à se doter de ce qu'on appelait un service culturel. Et ce service culturel avait un objectif, c'est de prendre en compte les publics dans leur diversité, les publics depuis les enfants de la maternelle jusqu'aux publics empêchés, qu'on n'appelait d'ailleurs pas encore alors les publics empêchés, mais les publics qui, pour des raisons diverses, ne viendraient pas au musée, et puis bien entendu le grand public, et puis le public cultivé mais non spécialiste, comme on disait alors, bref, la diversité des publics. Et c'était très frappant comme mission, très, très stimulant, très perturbant aussi, parce qu'à l'époque, il y a donc de cela, vous le savez, bientôt 40 ans, il était difficile de voir converger les soucis, la mission du conservateur avec donc cette mission qui consistait à prendre en compte en premier lieu les publics lorsqu'on pensait le musée. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, je crois que l'évidence est là et l'harmonie est dans toutes les têtes. S'occuper des œuvres, conserver les œuvres, c'est aussi prendre en compte les publics. D'ailleurs, c'est dans le statut même des conservateurs précise cette union entre l'intérêt de la conservation qui est premier et bien entendu le souci de transmettre, le souci de s'adresser à des publics dans toute leur diversité. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureuse de vous d'introduire avec Charles Personnaz aujourd'hui cette journée, parce que, évidemment, aujourd'hui, l'évidence est que nous n'en avons jamais fini de réfléchir aux politiques de public qui sont mises en œuvre dans les musées, et il va sans dire que le public est aujourd'hui un enjeu majeur. J'ai une dernière raison de me réjouir aujourd'hui, c'est de voir l'image qui ouvre vos travaux. Cette image me tient particulièrement à cœur parce qu'elle témoigne d'une réflexion appliquée que nous avons depuis 5 ans à l'École du Louvre, qui consiste chaque année à organiser avec quelques étudiants très motivés une exposition école. C'est un exercice grandeur nature sur lequel je ne vais pas trop m'étendre parce que vous en devinez évidemment les enjeux. Et cet exercice grandeur nature a cette année pris place au musée des Beaux-Arts de Chartres, et cette image représente justement, vous voyez, une tentative de capter le public, de l'intriguer, de le faire réfléchir à partir d'objets qui ne sont pas forcément des œuvres d'art, puisqu'il s'agit de moulages sur nature pris à partir de condamnés à mort, si ma mémoire est bonne. Je me tourne vers celui de nos collègues qui, ici présent, a conduit ce projet de condamner à mort, la fameuse bande d'orgères qui avait terrorisé le pays chartrain et même au-delà, et dont la mémoire est encore vive, transmise de génération en génération. Comment présenter de tels objets, des objets à la fois effrayants, un peu répugnants, peut-être répulsifs, mais en tout cas tellement forts pour passer la mémoire. Donc je pense que vos travaux vont prendre en compte ces questions, bien sûr, de mémoire qui sont fondamentales dans les musées qui exposent des objets de civilisation tout autant que des œuvres d'art. Je voudrais moi aussi m'associer aux remerciements que Charles Personnaz a prononcé tout à l'heure, parce que c'est toujours un plaisir que de voir nos deux maisons converger vers des manifestations communes. Nous sommes peut-être un établissement en nombre d'étudiants plus importants, n'empêche que nous sommes la petite sœur de l'INP pour bien des aspects, et c'est toujours un plaisir de collaborer. Je voudrais remercier Madame Blenner-Michel, la directrice des études de l'INP, et puis évidemment Anaïk Chatin, la directrice des études de l'École du Louvre, qui fait depuis des années avec discrétion et efficacité ce trait d'union. On lui doit beaucoup dans ce trait d'union entre nos deux maisons. l'émission. Donc merci à tous, merci donc à ceux qui autour d'elle et en particulier Ludovic Raffali ici présent ont contribué à cette réflexion sur l'exposition de manière très pratique et appliquée et continueront à le faire. Et je vous souhaite moi aussi d'excellents travaux.
Et sans plus attendre, et pour ouvrir cette journée, je laisse la table à Emmanuel Vallon, professeur émérite de sociologie politique à l'Université de Paris-Nanterre.
Bonjour à toutes et tous. Alors je salue Madame Barbillon au moment où elle s'en va, juste pour aller dans le sens de ce petit souvenir de l'ouverture du musée d'Orsay. Le public effectivement n'est pas là le jour de fermeture, mais de quel public s'agit-il ? Je voudrais rappeler qu'à la fin du 19e siècle encore, à propos des théâtres parisiens, quand on réfléchissait, y compris à la Chambre des députés, sur la démocratisation de ces lieux d'art et de savoir, pour évoquer tous ceux qui étaient destinés aux places à coups modestes, aux paradis, aux étages supérieurs, et qui en réalité représentaient le plus grand nombre, on parlait du petit public. Petit par la condition sans doute, mais grand par le nombre. Ça en dit long effectivement sur l'évolution des esprits qui était nécessaire avant de mettre les publics au cœur des projets d'exposition, de représentation et de l'ensemble des lieux culturels. Voilà, je vous remercie d'avoir patienté une seconde pour ce petit clin d'œil. Et je suis très heureux de revenir ici dans cet amphithéâtre que je connais bien pour fréquenter régulièrement l'INHA, auquel mon université Paris-Nanterre est attachée. Pour parler avec vous de cette médiation muséale en quête de territoire, et j'ai intitulé ce petit exposé introductif « La tombe est le trésor ». Je pense que vous aurez peut-être reconnu les phrases d'un professeur au Collège de France et poète encensé de son vivant, un certain Paul Valéry. On n'aura pas fini. On ne se lassera pas de les méditer, ces sentences qui semblent prononcer d'une voix solennelle, voire sépulcrale, du haut du fronton des quatre L du palais de Chaillot. La plus marquante d'entre elles, en tout cas pour le propos qui nous retient aujourd'hui, est celle qui dit, en lettres de bronze, très hautes sur la façade, « Il dépend de celui qui passe ». Que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise, ceci ne tient qu'à toi, ami, n'entre pas sans désir. Quand j'étais dans mes premières initiations au musée, j'étais toujours frappé par ce « n'entre pas sans désir », mais c'est au fur et à mesure d'une réflexion et d'échanges avec des spécialistes des relations avec le public, de la médiation, que je me suis rendu compte que le reste de la sentence est également paradoxal. On pourrait parler effectivement d'injonction paradoxale. Après tout, tombe ou trésor, en dehors du moment où l'on expose la sépulture de Ramsès II ou celle de Toutankhamon et où la tombe se confond avec le trésor, est-ce que cette alternative doit réellement créer l'inquiétude, peut-être soulever la peur de celui qui pourrait avoir le désir d'entrer ? Est-ce que la tombe en elle-même n'est pas un lieu de mémoire, un lieu de pensée, un lieu de rêverie pour en tout cas ceux qui la visitent de l'extérieur ? Mais surtout, que je parle ou me taise, il dépend de celui qui passe, que je parle ou me taise, ceci ne tient qu'à toi. Est-ce à dire qu'il faut arriver outillé déjà de l'ensemble des instruments et dispositifs de traduction pour mettre en voix ce qui est mis en forme, les objets les choses. Et dans quel sens doit se faire cette interprétation ? Il y a une autre citation de Paul Valéry, non loin, sur une des autres ailes, que je préfère à tout prendre, parce que sans doute exprime-t-elle mieux l'enjeu final de toute visite, qui n'est pas forcément la connaissance des choses ou la délectation des objets qui se trouvent exposés. Écoutons-le. Chose rare ou chose belle, ici savamment assemblée, instruisent l'œil à regarder, comme jamais encore vu, toutes choses qui sont au monde. C'est bien le monde, ce qui n'est pas contenu en entier dans l'exposition, que l'exposition nous invite à considérer d'une autre manière. À partir de ce renversement de l'expérience cognitive et esthétique, on peut peut-être trouver des éléments, des arguments, des instruments pour mieux faire naître, lever cette patte du désir qui est exigée pour provoquer l'entrée. Mais où se niche-t-il, ce désir ? Est-ce qu'il est enfermé dans des replis de la psyché, liés à l'histoire individuelle de chacune et de chacun ? En général, quand on emploie ce mot, il s'agit de le saisir avec des pincettes extrêmement fines et délicates. Est-ce que ce sont plutôt les territoires de la société qui le renferment ? Est-ce qu'il y a dans le territoire social des lieux de fabrication de désirs, d'évasion de ce désir, des lieux d'élision, enfin, qu'est-ce qui peut éventuellement, dans le rayonnement d'un musée, susciter davantage ce désir de venir, ce désir de revenir, ce désir d'aller voir, ce désir d'aller comprendre. Je pense que cette réflexion, telle qu'elle est menée dans les musées, en effet, elle a été souvent pionnière et Madame Barbillon avait raison de souligner que ce sont plutôt les institutions muséales, j'ajouterais aussi les centres de culture scientifique et technique, qui furent les premières à instaurer des dispositifs, mais surtout à recruter des personnels spécialisés et à faire apparaître dans les organigrammes des services de relations avec les publics qui parfois se sont appelés services d'action culturelle ou services de médiation culturelle. Avant de revenir sur ce mot de médiation, il faut peut-être quand même se demander d'où vient la question. J'évoquais ça de façon un peu plaisante tout à l'heure à travers ce mot condescendant de petit public, très paradoxal lui aussi pour désigner le grand nombre. Mais à dire vrai, ce n'est pas tant dans les musées que la rhétorique de la démocratisation culturelle s'est construite, mais beaucoup plus dans les théâtres. Pour une raison simple, c'est que le théâtre s'adressait ou était censé d'emblée pouvoir s'adresser à des personnes qui ne maîtrisaient pas aussi bien la langue écrite, ce qui, au moment de la Révolution française, lui a valu d'endosser une vocation quelquefois un peu lourde pour lui, d'éducateur social, d'instructeur civique. Et tout au long des débats qui ont suivi dans les nombreux régimes qui ont alterné entre Empire et Restauration, Seconde et Troisième République, on constate que le théâtre ne pouvait justifier la sollicitation publique qu'à partir du moment où il donnait toutes les garanties de s'ouvrir à tous. Le raisonnement fait par des hommes et des femmes de théâtre, aussi bien que par des députés ou des personnes de gouvernement, était simple. À partir du moment où c'est la contribution de tous et de toutes qui permet d'entretenir une institution culturelle, il faut que son message s'adresse à chacune et à chacun. Mais il y avait derrière cela encore un enjeu plus important, plus vital pour un régime de nature républicaine à s'emparer finalement de leviers d'instruction tout à fait différents de ceux de l'école pour compléter le travail de celle-ci. Ne s'agissait-il pas de permettre le plein exercice, le plein usage du suffrage universel ? C'est-à-dire, est-ce que le musée, est-ce que le théâtre, est-ce que le monument historique n'était pas un auxiliaire de l'école et de l'université pour faire connaître ces toutes choses existantes au monde, pour faire comprendre les mécanismes de la société, pour approprier une histoire et pour souder une collectivité. Dès lors que le savoir était détenu par des élites, classe, caste, couche sociale, peu importe le mot que l'on met derrière, le partage de ce savoir était le préalable à un éventuel partage du pouvoir. Cette rhétorique, on le sait, a permis le développement de politiques culturelles qui se sont d'abord timidement esquissées sous le Front populaire et avec la 4e République. On pense notamment à l'œuvre assez remarquable de Jeanne Laurent dans le domaine des théâtres, mais elle venait elle-même d'ailleurs de l'univers des musées, puisqu'elle avait participé, cette directrice du théâtre et de la musique à la Direction générale des arts et des lettres dans les années 40. Elle avait participé à la mise à l'abri des chefs-d'œuvre des musées de France face à la menace d'invasion allemande. On pense évidemment à la fondation du ministère des Affaires culturelles et au développement assez vigoureux, même s'il n'était pas à la mesure des espoirs du fondateur, des maisons de la culture et de toutes sortes d'autres équipements, la relance des centres dramatiques nationaux, mais faut-il le rappeler, aussi des musées, après tout. La première des maisons de la culture, celle du Havre, en réalité, n'était autre que le projet de reconstruction du musée du Havre, du musée des Beaux-Arts, qui avait été détruit par les bombardements alliés à la fin de la guerre. Et donc, bien sûr, on se dit que cette rhétorique puissante du partage des savoirs, elle est au rendez-vous de l'histoire, mais pour autant, est-ce qu'elle a pu permettre d'arriver à son objectif, c'est-à-dire de réellement favoriser l'accès de toutes et de tous aux lieux consacrés de la culture. Une expression née là aussi dans le milieu du théâtre et appelée à une assez forte un assez fort retentissement dans les années 70 et 80 a un peu douché les espoirs et les enthousiasmes. Ce n'est plus de petit public que l'on parlait alors, mais de non-public, avec ou sans trait d'union entre non et public. L'expression est de Francis Janson, philosophe ami de Sartre, qui à l'époque dirigeait la Maison de la Culture en préfiguration de Chalon-sur-Saône. Elle a été reprise par une grande partie de directeurs de théâtre qui étaient réunis à Villeurbanne en 1968, au moment donc d'une éruption sociale. Et depuis, ce mot est resté comme une épée de Damoclès au-dessus de toutes celles et tous ceux qui, à leur place de sociologues, d'experts des politiques culturelles ou d'artisans de ces politiques dans les institutions muséales ou théâtrales, avaient à cœur de comprendre les chemins d'accès du public. Et je ne vous apprends rien en vous rappelant que tout un labeur philosophique et sociologique s'est développé à partir du milieu des années 60. On songe surtout à l'amour de l'art co-signé par Pierre Bourdieu et Alain Darbel pour rappeler que ce fameux désir ne naît pas de lui-même, ne se déclenche pas comme un coup de foudre qui serait provoqué par le choc électif en présence de l'œuvre, hein, mais que ce désir est assimilé, inculqué, appris, légitimé par un certain type de conduite sociale dans des milieux qui disposent d'un capital culturel, social, éducatif. Alors, très souvent, mes collègues et moi-même qui travaillons un peu sur les études de public, sur la médiation, sommes inquiets de vérifier que depuis 1965 ou 1968, les choses ont un petit peu évolué, non seulement dans les pratiques, comme ça a été rappelé tout à l'heure, mais même dans l'analyse, dans les considérants de cette analyse des publics. Et force est de constater aujourd'hui, par exemple avec un sociologue qui s'appelle Philippe Coulangeon, que la distinction dont nous parlaient Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, cet affichage social du jugement qui permet de se démarquer de la plèbe ou du vulgus pecus en affirmant ses choix culturels, et bien que cette distinction aujourd'hui se rejoue sur beaucoup de tableaux, et ce n'est pas un des moindres paradoxes, une des moindres contradictions que vous avez, vous, à affronter dans le travail d'explicitation de l'exposition et de médiation autour des œuvres, que de constater que pour une bonne partie des publics qui sont visés, l'intimidation culturelle ne vaut plus, que la réaction n'est pas celle de la crainte qui amène à passer son chemin, de peur de se trouver humilié par une forme d'arrogance culturelle, mais que c'est plutôt une attitude revendiquée d'indifférence par rapport à des œuvres d'une culture dite légitime ou dite savante ou dite consacrée qui n'ont pas forcément autant de popularité parmi les usagers des innombrables industries culturelles et des applications qu'elles mettent en œuvre. Hein ? Donc, les publics ne sont pas seulement des belles dormantes qu'il faudra éveiller en les touchant d'une plume ou d'une baguette magique ou d'un baiser. Ce sont souvent des publics tout à fait conscients de leur choix, revendiquant des chemins d'acculturation qui peuvent se détourner de l'exposition ou du musée. Donc, il est d'autant plus important de réfléchir aux conditions dans lesquelles cette rencontre s'effectue. Alors, je ne vais évidemment pas abuser trop de votre temps pour passer tout en revue, mais je voudrais quand même noter quelques éléments qui peuvent peut-être nous aider dans la réflexion et surtout intervenir en complément de ce qui va être dit des expériences les plus concrètes tout à l'heure de médiation de l'exposition ou de la collection permanente. D'abord, penser le musée dans sa spécificité. C'est-à-dire que peut-être que le terme est trop générique et qu'il est important de comprendre que l'accès à des collections ou à des expositions, à des œuvres, sera très très différent dans une maison d'illustres et dans un centre de culture scientifique et technique, dans un musée de sciences et techniques ou dans un musée des beaux-arts, dans un musée d'art contemporain qui fait signe lui-même par un bâtiment exceptionnel, ou dans un musée patrimonial au cœur de la ville dont on connaît la façade sans avoir jamais soupçonné ce qu'il pouvait éventuellement renfermer de précieux. Pensez le musée donc dans la logique qu'il déploie pour allier à la fois le sensible et le cognitif, la connaissance et l'émotion. D'abord, se rappeler que le musée, pour beaucoup d'habitants d'un territoire donné, est d'abord un point de référence, un monument. Il arrive qu'on puisse demander son chemin à des habitants d'un quartier populaire qui sauront parfaitement indiquer la rue dans laquelle il faut tourner après le musée des Beaux-Arts, tout en avouant n'y être jamais entré. Même si maintenant les opportunités d'y rentrer grâce à une, comme on dit de façon un petit peu trop savante, une socialisation inversée, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui amènent leurs parents au musée à l'occasion d'une sortie scolaire, se multiplient fort heureusement. Donc pensez le musée d'abord comme signe dans la ville, ce qui a peut-être été d'ailleurs trop exemplifié par les musées d'art contemporain que j'évoquais, qui se sont souvent posés à l'image bien connue du musée Guggenheim, comme des monolithes, comme des objets qui valent avant de faire signe de leur contenu ou de leur collection, elle-même d'ailleurs très, très variable, puisqu'elle dépend des prêts de la Fondation Guggenheim. Pensez le musée comme complexe culturel et pas simplement comme un lieu de conservation. Ça, c'est un constat qui s'impose du fait de toutes les transformations intervenues dans les 30 ou 40 dernières années, qui vont évidemment de la présence de lieux de restauration au sens alimentaire cette fois-ci du terme, de belvédères, d'aires de jeu pour les enfants, évidemment la proposition programmatique elle-même diversifiée avec des expositions temporaires, des ateliers pédagogiques et les collections permanentes, mais aussi un musée qui se fait théâtre d'événements de plus en plus souvent. Les concerts, les locations d'espace, les soirées ou les journées exceptionnelles, l'accueil des mécènes. Enfin, il y a toute une programmation parallèle à celle de la collection et des expositions qui se fait jour et qui, souvent, offre un appui à la médiation. Mais un appui qui peut être trompeur, car par exemple, s'il est facile de rajeunir l'image d'un musée en invitant un DJ pour animer un dance floor dans des très très beaux espaces passés 23 heures, en revanche, les caractéristiques de ce public montreront sans doute qu'on a affaire à des jeunes urbains diplômés ou en voie de l'être, en tout cas avec un avantage d'instruction et peut-être éventuellement même de revenus par rapport à la moyenne de la population. Pensez surtout la visite comme une expérience multidimensionnelle. Alors déjà, sur l'aspect esthétique, j'abats mes cartes. Je suis avec mon camarade Alain Kerlan, qui enseigne la philosophie de l'art à Lyon. Je suis un adepte de John Dewey et je pense que l'expérience esthétique ne se sépare pas des autres expériences qui impliquent non seulement tout l'appareil cognitif, mais également le corps. Que cette expérience renvoie toujours à d'autres moments, d'autres temps d'évaluation esthétique, d'un coucher de soleil à un gâteau d'anniversaire, en passant par un bel objet usuel ou tout simplement un lieu de mémoire que l'on aime à visiter. Mais pour les visiteurs, que l'on englobe un petit peu trop rapidement dans cette immense catégorie de public, même avec le S qui permet de les diversifier. En réalité, la visite, elle est aussi physique. Quand est-ce qu'on mange? Où sont les toilettes? C'est par où la sortie? Elle est affective. Avec qui je suis venu? Est-ce que c'est un rendez-vous amical, amoureux? Est-ce que c'est la personne avec laquelle je vis habituellement? Est-ce que je suis en famille avec des enfants dont la patience a des limites? Voilà. C'est une expérience sociale. Est-ce que chaque visiteur est un sociologue en puissance qui ne s'ignore pas nécessairement, qui mesure toise le reste des visiteurs en se demandant s'il est à sa place, qui peut être heureux du mélange comme il peut en être éventuellement inquiet, qui peut immédiatement, par exemple, s'il appartient à une minorité dite visible, remarquer l'absence flagrante d'autres membres de cette minorité dite visible dans la foule qui se presse dans les allées du musée. Voilà. Donc tous ces éléments font que le visiteur n'est jamais saisi uniquement par l'étude de son parcours dans l'exposition, mais par celle d'un parcours social beaucoup plus important, tel que, par exemple, le sociologue Bernard Lahire nous permet de le comprendre et de l'étudier en se demandant quelles sont les occasions de bifurcation, tous les moments où l'on échappe à la détermination sociale. Si les enfants des classes modestes étaient toujours voués de façon impérieuse à adhérer seulement à des loisirs ou à des formes d'occupation pensées pour elles et pour eux, eh bien, effectivement, on assisterait à une reproduction sociale, et inversement, les enfants des élites, on assisterait à une reproduction sociale absolument parfaite et totalement désespérante. Mais il y a sans cesse des accidents, et ces accidents, la médiation peut être un des éléments qui la provoque. Eh bien, justement, penser la médiation, ou comme j'avais écrit dans un article, méditer la médiation, c'est réfléchir à son épaisseur spécifique, c'est-à-dire qu'elle est en elle-même source d'expérience. D'ailleurs, si vous faites parler des collégiens à la suite d'une visite au musée, vous serez, si vous les faites parler très librement, pas dans le cadre de l'évaluation officielle inscrite dans le contrat ou la convention, vous serez très étonné de voir l'importance que le pique-nique, que la glissade sur les parquets, que le fou rire dans les vestiaires ou dans l'ascenseur, que la présence de Madame Intel ou de Monsieur Truc pour accompagner le groupe a pu prendre dans la lecture de l'ensemble de ce qui était offert à la perception et à la compréhension, bref, à l'intellection. Hein. La médiation a ceci de difficile, qu'elle est à la fois une expérience de reliance entre le voir et le savoir, et une expérience de reliance entre des personnes, des lieux, des choses. Pour que cette médiation fonctionne, il faut évidemment qu'elle ne cherche pas le total effacement. Je me souviens encore, dans les premiers cursus de médiation culturelle, auquel j'ai pu participer, de ce que beaucoup d'intervenants, notamment celles et ceux qui tenaient d'une expertise artistique, soit en tant que conservateurs, soit en tant qu'artistes eux-mêmes, leur insistant sur le fait que la médiation ne devait jamais s'interposer. Hein. Le problème, c'est que quand elle ne s'interpose pas, elle ne peut pas intermédier, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas effectuer son travail de relais. Et quand on réfléchit avec les gens dont le travail porte justement sur l'accompagnement dans les lieux culturels des personnes, on va revenir sur ces termes, les plus éloignées, les plus exclues ou les plus empêchées, hein, notamment par exemple des personnes en grande difficulté sociale et pécuniaire, avec des problèmes de logement récurrents. Ces personnes sont extrêmement sensibles au premier élément de l'expérience de la médiation, qui est la rencontre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que l'on va rencontrer, comme finalement on s'intéressait aux propos du guide conférencier ou de la guide conférencière. D'abord parce qu'on s'intéressait à sa manière
de parler, sa manière d'aborder, sa manière de nous aborder. Donc, c'est assez important de ne pas faire complètement disparaître, de ne pas écraser cette épaisseur de la médiation pour bien en comprendre à la fois les limites et les potentialités. Mais pour aller vers des publics très diversifiés, il y a encore une opération de distinction qui est nécessaire, c'est cette classification. De qui s'agit-il ? Qu'est-ce qu'on vient faire avec tel et tel public ? Est-ce qu'on peut vraiment mettre dans le même ensemble toutes les formes de médiation qui concernent les collégiens, les apprentis, les lycéens et les élèves du primaire ? Est-ce que c'est pareil d'aborder un travail avec une maison de retraite ou avec un office HLM ? Est-ce que c'est la même chose d'aller chercher des publics ou d'aller à la rencontre de ces publics en leur apportant des œuvres ou des copies d'œuvres directement chez elles, si ce sont des détenus, si ce sont des pensionnaires d'un hôpital ou si ce sont, je ne sais pas, des jeunes chômeurs. Évidemment, la réponse est non, mais on voit bien qu'il y a une permanente injonction à englober. D'abord parce que tout le monde ne dispose pas d'un service culturel aussi étoffé que celui du musée d'Orsay. L'action culturelle dans un petit musée d'une sous-préfecture, ça peut être une personne. Hein, et même dans un musée un petit peu plus important, une petite équipe qui va avoir fort à faire pour tenir l'ensemble des partenariats. Ensuite, parce que la commande territoriale elle-même est ambiguë, mais de plus en plus pressante. Alors, je dois préciser, parce que c'est censé être un peu ma spécialité, les politiques culturelles territoriales, que les musées dont nous parlons sont, à l'exception des grands musées nationaux, pour la plupart tributaires de plusieurs sources de financement. Et on a l'habitude de les désigner, ces financements, en disant qu'ils sont conjoints, ce qui est une façon assez élégante et positive de les commenter, parce que cette conjonction suppose une coordination, ou qu'ils sont croisés. Et ce croisement suppose quelquefois des heurts et des conflits. Eh bien, oui, il y a dans la demande des collectivités territoriales, non seulement des exigences qui sont particulières en fonction de la taille de la collectivité, de ses compétences, de ses spécialités, mais il y a aussi une appréhension très différente du territoire. Hein, selon que vous avez, par exemple, à faire un musée municipal ou un musée intercommunal. La question s'est posée de façon cruciale pour la ville de Lyon, par exemple, dans les dernières années, au moment du partage entre la ville et la métropole de ces institutions muséales. Hein, du musée Gadagne au musée des Confluences, pour donner des exemples extrêmement contrastés. À ma connaissance, le musée Gadagne est toujours de la ville et le musée des Confluences est un musée de la métropole. Évidemment, il ne montre pas du tout la même chose pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce très beau musée Gadagne. Je rappelle qu'il s'agit essentiellement de marionnettes, de pantins, de figures animées, l'une des plus belles collections au monde en la matière. Alors, évidemment, selon qu'on dépend d'un département ou d'une région, d'une ville ou de l'État, ou de tous à la fois, la demande sur laquelle les interlocuteurs insisteront risque d'être différente. Prenons l'éducation artistique et culturelle. Comment penser les territoires de l'éducation artistique et culturelle ? Pour la commune, il s'agit évidemment de la carte des écoles primaires sur son sol. Pour l'intercommunalité, donc à une échelle un petit peu plus grande, celle de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération. Pour le département, la préoccupation essentielle est celle des collégiens. Pour la région, évidemment, des lycées. Et le parcours d'éducation artistique qui va permettre à un élève, comme on le dit à côté d'ici, au Conseil supérieur de l'éducation artistique et à ses locaux sous la rotonde, c'est-à-dire tout au long d'une vie, mais aussi à travers l'ensemble des champs et des disciplines artistiques, et donc à travers plusieurs cycles scolaires, hein, ce parcours est extrêmement complexe parce qu'il va devoir mener d'institutions de culture scientifique et technique à des institutions d'art contemporain, en passant par des musées d'histoire, et le tout avec des tutelles qui sont soit différentes, soit conjointes et coordonnées, soit éventuellement en désaccord entre elles. Je ne veux pas reprendre l'exemple Auralpin, mais on voit bien aujourd'hui que, par exemple, la défection d'une puissante région peut entraîner les partenaires, les autres, à refuser de compenser le manque à gagner. Et c'est en général, souvent, dans les budgets de médiation culturelle que l'on risque de tailler parce que c'est plus facile et que ça apparaît parfois comme une marge d'ajustement. Donc, oui, les territoires n'ont pas la même signification. Dans la langue politique, en réalité, le mot territoire est venu remplacer de façon subreptice celui de peuple qu'on a tant de mal à nommer. Hein ? Public est un terme qui tente de faire le lien entre peuple et territoire. Mais le S de public est si important qu'il mène à la découpe. C'est-à-dire qu'il permet d'appréhender par catégorie. Alors, on pourrait penser que ce sont des catégories de l'INSEE, des catégories sociales et professionnelles, des catégories appuyées sur une véritable connaissance des pratiques culturelles, sur les niveaux d'instruction. En réalité, c'est beaucoup plus simple. Dans la plupart des établissements, j'ai pu encore le vérifier à travers l'audition en soutenance d'une très bonne thèse consacrée au MUCEM à Marseille, même des services de médiation culturelle extrêmement capés, extrêmement outillés intellectuellement, avec de fortes convictions politiques et sociales, pour simplifier, sont quand même amenés à découper les catégories par tranche d'âge, d'abord, plus simple, ou éventuellement par cycle scolaire pour la jeunesse scolarisée, mais pour les autres, en fait, en fonction des différents types de partenaires auxquels on peut avoir affaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des spécialistes des comités d'entreprise, on va avoir des spécialistes des maisons de quartier, des maisons de jeunes et de l'éducation populaire d'une façon générale. Et puis, on va avoir quelques personnes qui pourront accompagner peut-être des projets dans lesquels le musée s'en va hors les murs, à la rencontre de ces publics dits éloignés, empêchés ou exclus. Là aussi, il y a manque de temps, et puis surtout, je compte sur vous pour m'interrompre quand on en approche, quand l'heure va sonner, mais à l'évidence, le choix des mots a une importance aussi. Hein, dans les années 80, à la fin des années 80, quand les études du département, c'était encore le service des études de la recherche du ministère de la Culture, c'est devenu peu après le département des études de la prospective, ont été publiées, qui montraient que malgré le doublement du budget du ministère de la Culture, le quasi-triplement des dépenses culturelles des collectivités territoriales, l'élan de création et la qualification de la médiation toujours plus affirmée, les résultats statistiques restaient décevants, voire déprimants, avec toujours un certain taux de reproduction des élites, avec non pas le critère du revenu, mais surtout le critère du niveau d'instruction comme principale variable déterminant l'accès au musée, au théâtre, au concert et même dans une moindre mesure au cinéma ou dans des festivals, même dans les festivals d'art de la rue. Et donc, à ce moment-là, est apparu tout un courant de réflexion autour de la notion de l'exclusion, hein, pour réfléchir à ce qui dans les dispositifs d'accueil de ces institutions culturelles pouvait agir comme un repoussoir ou tout simplement pour comprendre à quelles conditions des publics qui se sentaient exclus socialement du point de vue de l'emploi, fort taux de chômage, ou du point de vue de l'échec scolaire, finissaient par refuser même les propositions qui pouvaient leur être faites d'accéder à d'autres modes de connaissances dans les établissements culturels. Alors cette réflexion a donné beaucoup de beaux projets et de belles innovations sur le plan des dispositifs de médiation, mais j'incline à croire que son principal avantage a été plutôt de convaincre des personnels de l'action culturelle, des médiatrices et des médiateurs, je devrais dire des médiatrices tout court, parce que le public de ces professions est très majoritairement féminin, et des artistes, qu'il fallait monter des projets de médiation qui soient des projets artistiques, et des projets artistiques qui incluent leur dimension de médiation. De là sont venues effectivement toutes ces missions d'intervention dans les hôpitaux ou dans les prisons qui se sont démultipliées, notamment dans le monde du spectacle vivant, mais qui commencent à se trouver aussi dans d'autres domaines de l'action culturelle. Désormais, on en est venu à cette formule de public empêché. Si on supprime l'empêchement ou si on franchit la barrière, alors, sans doute, la rencontre pourra avoir lieu et le désir pourra naître. Je suis un peu sceptique sur le pouvoir des mots. Je suis attentif à ce qu'ils signifient, mais je ne suis pas certain que la bonne qualification résolve toujours le problème. Alors, pour conclure et faire place maintenant à toute l'expérience et celle dont vous êtes porteuse et porteur ici, je voudrais dire quand même que ce n'est pas forcément une bonne idée de refuser le paradoxe. Les contradictions que je décelais dans les formules de Paul Valéry, je crois qu'elles sont motrices. Réduire la distance, surmonter l'éloignement, refaire territoire, faire accéder à des publics, au musée, à des publics d'y empêcher, trouver le moyen d'un rayonnement territorial et social accru du musée, ça ne peut pas passer que par des dispositifs de médiation. Ça doit passer par un projet global qui engage la totalité de l'institution, dans sa conception, mais aussi dans la manière dont chaque direction revisite l'histoire de son institution. Plutôt que le musée exporté, Centre Pompidou ou Musée du Louvre, allant très au-delà de nos frontières, plutôt que le musée, disons, miniaturisé et servant essentiellement à l'exposition de copies numériques, comme le font les Microfolies dans le programme coordonné par la Villette. Moi, j'aime à penser que le musée doit surtout être revisité, c'est-à-dire qu'il doit pas simplement penser la façon dont les visiteurs viendront à sa rencontre, mais dont il peut, dans un travail collectif qui inclut l'ensemble des personnels, mais aussi l'ensemble des tutelles et l'ensemble des partenaires, redonner le plein sens à sa mission d'habiter un territoire. Mais ce territoire, à lui de le définir, à lui de le délimiter. Il ne se confond pas forcément avec celui de la circonscription électorale ou des limites de l'intercommunalité. Voilà, ben je préfère m'arrêter là, et en ayant bien conscience d'avoir laissé de côté beaucoup de choses, notamment un certain nombre de considérations sur l'éducation artistique et culturelle et son évaluation dans le domaine des musées, sur lequel on reviendra peut-être dans la discussion.
Je vous remercie beaucoup, Emmanuel Vallon, d'abord d'avoir accepté d'introduire cette journée et d'avoir joué le jeu à travers ce tableau très, très large, très vaste, à la fois des publics, de la médiation, de l'action culturelle, qui sont vos terrains de recherche et d'expertise, de nous avoir introduit aux trois mots, aux trois concepts qui vont guider notre journée, c'est-à-dire les liens entre public, médiation et territoire. Et effectivement, nous avions à cœur cette année d'explorer ces multiples relations à travers des exemples de médiation originaux qui avaient été mis en œuvre récemment par un certain nombre de musées, dans l'objectif peut-être de toucher de nouveaux publics ou de revisiter le rapport au public dans le cadre d'un nouveau parcours muséographique, d'une réouverture. Et puis ce lien fort au territoire, comment on va à la rencontre des publics au sein de territoires qui peuvent être très vastes, comment on va chercher les publics en sortant de ces institutions, de ces espaces clairement identifiés, vous en avez parlé, qui sont identifiés comme des signes, comme des monuments au sein desquels on peut aller chercher, se nourrir d'expériences culturelles, comment est-ce qu'on va au-devant de ces publics pour leur permettre de vivre ces expériences culturelles. Donc ce sont les deux temps de notre journée, avec une matinée qui sera davantage consacrée à l'exploration de ces dispositifs de médiation originaux, et une après-midi qui nous portera à la rencontre de ces nouveaux territoires ou de ces moments où on rejoint les publics éloignés des institutions. Donc je vais appeler. Alors pour la discussion, on a prévu un temps d'échange avec la salle assez conséquent en fin de matinée. Donc je vous propose d'écouter les différents intervenants et de réserver vos questions pour ce temps d'échange en fin de matinée. Vous pourrez évidemment poser également des questions à Emmanuel Vallon sur son introduction.